Bonjour à vous, cher Emmanuel, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi qui vous emmène chaque semaine à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. La philosophie est-elle une vocation? Comment viennent les idées? Comment se fabrique un concept? Et quel rôle le philosophe doit-il jouer dans la cité? Voici aujourd'hui le portrait en acte et par lui-même du philosophe Edgar Morin. Bonjour Edgar Morin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis Montpellier. Et merci à l'équipe qui assure ce duplex. Je vous ai présenté comme philosophe. Comment vous présentez-vous?
Comme paraphilosophe, si vous voulez, comme il y a des parapharmacies. Je me considère comme philosophe à l'état semi-sauvage, pas tout à fait officiel comme les bonnes pharmacies. Et je me considère aussi comme à la fois philosophe, anthropologue, sociologue. C'est-à-dire que pour moi, la philosophie n'est jamais détachée du type d'objet auquel elle se voue et qui nécessite d'être regardée. Voilà. Alors, si vous voulez accepter, les gens me disent, enfin, on me présente philosophe sociologue, je veux bien, mais cette étiquette de paraphilosophe.
Et pourquoi pas philosophe officiel alors?
Mais parce que, si vous voulez, moi j'ai fait des études qui comportaient la philosophie, l'histoire, l'économie, la sociologie, et si vous voulez, moi je considère la philosophie comme à la fois un regard réflexif sur soi-même et sur ce que sur l'objet que l'on étudie, et comme quelque chose d'interrogatif, c'est-à-dire qui se pose une question ou des questions sans arrêt.
Voilà. Est-ce que c'est un métier, être philosophe?
Écoutez, c'est un métier pour les professeurs de philosophie, mais pour moi, qui a été un directeur de recherche au CNRS, je n'ai pas été dans la catégorie. On m'a vu au début en philosophie, là-dessus j'ai erré. Moi je considère, si vous voulez, que ce que j'ai écrit de plus philosophique, entre guillemets, c'est quelque chose, disons, qui s'appelle la connaissance de la connaissance, qui concerne deux volumes de la méthode. Mmh. Et là, si vous voulez, c'est mon obsession fondamentale. Si vous voulez, je reprends le propos de Kant, qui est même celui des neurosciences, mais enfin, philosophiquement celui de Kant, le regard critique sur la connaissance. Et j'essaye de le poser maintenant avec l'aide d'un certain nombre d'outils conceptuels issus de la grammaire générative, issus de la notion de paradigme développée par Kuhn, etc. Si vous voulez, ce qu'il y a de plus philosophique en moi, c'est l'obsession sur la connaissance, c'est-à-dire cette source permanente d'erreurs, d'illusions, d'à peu près. C'est peut-être ça qui est mon noyau philosophique.
On va essayer de percer ensemble aujourd'hui, je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas on va passer 50 minutes ensemble, Edgar Morin, pour comprendre votre pratique de cette philosophie, en remontant jusqu'à votre rencontre avec la philosophie, en questionnant vos influences philosophiques et extra-philosophiques, en pénétrant dans votre atelier de fabricant de concepts, en réfléchissant au rôle politique du philosophe que vous êtes, mais avant cela, ou du paraphilosophe, avant cela, je voudrais signaler dès à présent que vous êtes l'inventeur d'un terme qui a fait date, qui est entré dans le dictionnaire, et que l'on entend dans cette chanson de Gainsbourg.
Ni les tam, tam, yé, yé, yé. Ni les cris, cris que tu portais, dadou run, run que tu écoutais, au bal doum, doum où tu dansais, non rien n'aura raison de moi, j'irai te chercher ma Lolita chez les yé yé, sous les tam tam de yé yé yé.
Edgar Morin, c'est vous qui avez inventé le terme yéyé?
Oui, mais c'est pas mon plus grand titre de gloire. Ce que
le plus
je crois,
peut-être.
C'est que je l'ai fait à l'occasion d'une étude que j'avais faite dans Le Monde, le journal Le Monde, en 63, à l'occasion d'une nuit de la nation où les jeunes ne savaient, qui affamateurs fanatiques de ce rock français, symbolisé par Johnny Hallyday et autres, ont tout cassé au cours de cette fête. Enfin bref, je me suis interrogé sur, disons, une nouveauté, la constitution d'une sorte de bioclasse adolescente entre le cocon de l'enfance et l'intégration dans la vie adulte, qui avait ses codes, qui avait ses rites, qui avait sa façon de s'habiller, qui recherchait son autonomie, qui avait ses aspirations. Et c'est à cette occasion que, parlant de cette musique où les refrains se terminaient toujours par « oh yeah », eh ben, que j'ai inventé le mot « yeah ». Mais c'est pas, je répète, quelque chose de grandiose.
C'est pas le concept central de votre travail. S'il fallait identifier un concept autour duquel s'articule votre travail, justement, ce serait sans doute celui de complexité. Vous présentez en tout cas ce travail comme l'élaboration d'une pensée complexe que vous avez construite au fil de plusieurs dizaines d'ouvrages et principalement dans une série intitulée « La méthode » qui est composée de 6 livres parus entre 1977 et 2004. Est-ce qu'on peut dire que la complexité, c'est ce qui définit le cœur même de votre travail ?
Je crois, parce que je dirais que c'est un défi permanent à la connaissance. C'est un défi permanent à la connaissance si on prend le mot complexité dans le sens du complexus latin, c'est-à-dire ce qui est tissé ensemble dans la réalité de nos vies, du monde. Il y a des interactions sans cesse et tout est relationné. Ma maxime favorite, elle est de Pascal, qui dit « Toute chose étant causée et causante, toute chose étant aidée et aidante, tout étant lié par un lien perceptible qui les relie toutes les unes aux autres, je tiens pour impossible de connaître le tout si je ne connais les parties et de connaître le parti si je ne connais le nous. » C'est un défi à la connaissance où d'ailleurs on ne peut jamais connaître tout et la pensée complexe reconnaît qu'on n'a jamais la totalité et qu'on trouve toujours un résidu d'incertitude. Mais si vous voulez, c'est une façon de dépasser la pensée unilatérale, cloisonnée, uniquement disciplinaire, qui a été très, on peut dire que les disciplines ont été extrêmement fécondes dans l'histoire des sciences, mais le moment est venu de relier entre elles le rapport qui se trouve trop compartimenté et séparé. Donc j'essayais, pour reprendre ce propos, mon premier livre important s'appelle « L'homme et la mort ».
Je l'ai paru en 1951.
Voilà. Donc, j'étais assez jeune et j'ai passé un an ou deux à la Bibliothèque nationale où, au mot mort, il n'y avait que 3 titres purement religieux. Et comme je m'intéressais non pas à savoir ce que c'est la mort, c'est-à-dire que en dehors de la notion biologique, mais aux attitudes humaines à l'égard de la mort, à travers son histoire, ses civilisations, c'est pas. Donc j'ai dû faire un voyage à travers d'innombrables disciplines, dont les disciplines biologiques, la préhistoire, puisque dès la préhistoire on enterre les morts avec leurs armes et leur nourriture, les religions, la découverte de la mort par l'enfant, à quel âge, de quelle façon, enfin bref, un voyage très intéressant pour moi. Et la question était, une fois que j'avais accumulé beaucoup de savoir, de relier tout ceci et de découvrir un certain nombre de paradoxes, comme par exemple, on voit très bien l'horreur de la mort qui est le propre dans toutes les civilisations humaines, mais nous savons en même temps que cette mort qui fait horreur, ben dans toutes les civilisations, il y a des personnes qui sont prêtes à sacrifier leur vie pour défendre leurs enfants, leur famille, leur patrie, leur religion, etc. Donc, si vous voulez, dans l'être humain, il y a cette horreur, une polarité, l'horreur de la mort, quand il se voit lui-même tout seul, et en même temps, quand il se sent intégré dans une communauté qui est supérieure à lui, il se sacrifie pour cette communauté. Donc, c'était voilà ce paradoxe. Un autre paradoxe, c'était qu'effectivement, dès la préhistoire, les êtres humains ont conscience que la mort, c'est la décomposition. Ils n'attendent pas de mourir, ils voient bien dans leurs proches qu'il va. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette conscience très réaliste de la mort est toujours accompagnée d'une conscience qui la surmonte par l'idée qu'un spectre corporel immatériel va survivre sous forme de fantôme ou bien de renaissance commençait encore dans les civilisations extrêmes orientales. Là aussi, c'est un paradoxe. On reconnaît la mort et en même temps, on la nie. Donc, si vous voulez, tout cet amas-là, c'était déjà complexe d'essayer de réunir toutes ces connaissances de façon articulée, organisée. Mais je n'avais pas le mot. Le mot, il m'est venu, si vous voulez, quand j'ai plus tard, c'est dans les années 69-70, en Californie, que l'œuvre d'un cybernéticien, d'un systémiste, de ces gens qui s'intéressaient à l'auto-organisation, ASHBY, A-S-H-B-Y, a défini la complexité comme le degré de variété d'un système. Il voulait dire par là que la complexité, c'est ce qui est à la fois un et divers, puisqu'un système est composé d'éléments très divers, comme le système qui est notre organisme, composé de molécules ou de cellules très diverses, mais qui a quand même son unité, comme l'espèce humaine est une et diverse. Donc, si vous voulez, j'ai commencé à progresser de cette façon. Et de plus en plus, je me rendais compte que la complexité, c'est le défi à notre connaissance. Ce n'est pas la réponse à notre connaissance, c'est ce qui la défie. Et donc, la question était d'élaborer une méthode qui puisse affronter ce défi, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse la logique linéaire, n'est-ce pas, par exemple, où une cause détermine un effet, basta, alors que déjà dans la moindre machine cybernétique, dans le moindre système de chauffage muni d'un thermostat, vous avez l'effet, c'est-à-dire la température atteinte, rétroagit sur la cause et va l'arrêter. Vous avez une pensée circulaire. Alors donc, si vous voulez, trouver un moyen de dépasser la pensée linéaire pour une pensée en boucle ou en spirale. Et l'affrontement de contradictions qui, en général, sont écartées.
Ce sera là, donc la méthode, c'est ça. Donc c'est 6 volumes dont je parlais, de 1977 à 2004, que vous appelez la méthode, cette manière d'essayer à la fois de décrire et de composer avec cette complexité.
Voilà.
Vous l'avez dit, L'homme et la mort, votre premier livre, 1951. Vous étiez alors au CNRS. Ensuite, donc, les ouvrages s'étalent jusqu'en 2004. Et évidemment, il y en a beaucoup d'autres ensuite. Mais avant de commencer à écrire, est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec la philosophie? Un texte, un professeur, un auteur?
Moi, je considère Montaigne et Pascal comme des philosophes. Et donc, c'est la lecture de Montaigne qui m'a beaucoup marqué, et aussi celle de Pascal, qui avait le sens des contradictions et des rapports entre toutes les parties. Par exemple, ce que dit Pascal sur l'être humain, qui est un mélange de grandeur et de bassesse, de multiples aspects contradictoires, la pensée de Pascal me convient tout à fait. Mais le philosophe, disons philosophe, qui m'a marqué en tant que philosophe, c'est Hegel. C'est incontestablement Hegel. C'est lui aussi qui m'a fait affronter les contradictions et avec un sens extraordinaire du devenir, d'une pensée multidimensionnelle. Je crois que un grand choc pour moi, et ça, Hegel, c'est à l'âge à peu près de... J'étais déjà un peu âgé, j'avais 21 ans. Mais c'était une découverte. Et j'ai rétroagi dans le passé sur Héraclite, qui est devenu mon totem, mon philosophe maître.
Si donc ce sont les penseurs de la contradiction qui vous plaisent.
Voilà. De ceux qui affrontent les contradictions et qui trouvent le moyen de montrer qu'on ne peut pas penser en les évitant. Oui.
Quand vous avez commencé vos études, elles ont été interrompues ensuite puisque par la Seconde Guerre mondiale, puisque vous êtes né en 1921 et en 1942, vous entrez dans la résistance. Comment est-ce qu'après vous décidez de reprendre le fil de vos études et de votre travail intellectuel?
Vous savez, entrer dans la résistance, ça a été une conséquence d'un travail assez réflexif à partir de... Voilà. C'est-à-dire que j'avais été très impressionné peu avant la guerre par un texte de Simone Weil, voilà, philosophe que j'avais lu déjà. Et ce texte disait à peu près ceci. Là, les Romains ont conquis leur empire avec une extrême sauvagerie et pourtant quelques siècles après la pré-romaine, ils ont donné la citoyenneté à tous les habitants de ces colonies qui brusquement devenaient citoyens romains. Alors elle disait, c'était un peu à la guerre en disant, comme le nazisme est un accident dans l'histoire allemande et que malheureusement nous serons asservis parce que si l'on fait la guerre on sera battu et si on ne fait pas la guerre on sera vandalisé. Mais sans doute que plus tard, on ne peut pas dire comment, comme l'Empire romain, l'Empire européen va se transformer d'une façon positive. Bon, il y avait cette chose-là. Puis quand il y a eu la résistance de Moscou et qu'on a vu que l'URSS n'allait pas être anéantie par les armées nazies, moi j'ai commencé un travail réflexif et d'abord en reportant cet argument sur l'Union soviétique, parce que j'étais tout à fait conscient dans ma culture juvénile de l'avant-guerre, des procès de Moscou, de ce que le communisme stalinien avait fait d'affreux pendant la guerre d'Espagne. Disons que j'avais lu Trotsky, j'avais lu Souvarine, je connaissais.
Vous étiez membre du Parti communiste français à cette
avant,
époque.
Avant, j'étais plutôt anarcho-gauchiste. Je suis devenu communiste quand je suis entré dans la résistance. C'est-à-dire que vous comprenez, c'est ça qui est très important. Je vous dis, moi j'avais une culture antique stalinienne. Bon, mais en même temps j'ai envie de participer à la libération, j'ai envie de participer. Et cet argument de Simone Veil, je le reporte sur l'URSS, je dis, ben oui, l'URSS, tout ce qu'elle avait de négatif venait de l'encerclement capitaliste, venait de l'arriération tsariste, venait de cet état de siège qui créait une psychologie obsidionale de soupçons chez Staline, mais tous ces vices seront supprimés après la victoire, il y aura l'épanouissement de nos grandes civilisations socialistes, humanistes, universelles. Donc, si vous voulez, je me suis, avec une réflexion tout à fait rationnelle, mais erronée, parce que je me fondais sur un espoir qui ne s'est pas réalisé, je me suis converti, mais cette argumentation rationnelle, elle-même venait avec, disons, une pulsion juvénile, c'est-à-dire, je voyais que les jeunes du monde entier étaient dans cette guerre, je ne me voyais pas rester à l'écart, et c'était une sorte de romantisme pour participer à la guerre. Donc l'engagement dans la résistance est le fruit de deux choses, une chose philosophique, mais d'une philosophie erronée, et d'une chose existentielle qui était très forte.
Vous êtes resté membre du Parti communiste jusqu'en 1949, et vous avez écrit une autocritique, un ouvrage là aussi qui a fait date, dans lequel vous revenez sur ce que vous appelez cette erreur.
D'ailleurs, je dois dire que autocritique a un aspect, je dirais, philosophique ou paraphilosophique. Pourquoi ? Parce que le fond de ce livre, beaucoup d'anciens communistes témoignent comment on les a trompés. Moi, je n'ai jamais dit que personne ne m'a trompé. Pourquoi je me suis trompé ? J'examine la façon dont j'ai pensé, dont je me suis converti, et j'imagine aussi le lent processus de déconversion. C'est-à-dire, c'est aussi une réflexion sur la façon dont la connaissance peut se croire rationnelle et en fait en profondeur elle est religieuse, elle est mystique. Et dans le fond, c'était là encore, pour moi, ce livre autocritique a un aspect philosophique par sa réflexivité et par cette résolution que je me suis donnée après l'avoir écrit de ne jamais sombrer dans la pensée unilatérale, de me révolter toujours contre la réduction d'autrui à ce qu'il a de plus bas ou à faussement à des trahisons ou des vilenies, ce qui est de plus en plus courant dans notre monde politique. Donc, si vous voulez, ça m'a donné quand même un élan, je ne dis pas à vivre philosophiquement, mais à penser d'une façon meilleure.
Dans les années 60, vous enseignez quelque temps au Chili, où vous rencontrez le biologiste Jacques Monod. Vous vous intéressez par la suite à la mondialisation, au transhumanisme, à l'écologie, toujours pour développer cette pensée complexe qui vous est chère. Et puis on vous retrouve en 1973 prononcer ceci.
La révolution industrielle est née d'une transformation technologique, d'un essor scientifique, d'une position philosophique fondamentale qu'a exprimée admirablement Descartes, posant l'homme, sujet du monde, par rapport à un univers d'objets à manipuler, et cette idée a été reprise par tout le cours technologiste, bourgeois, Je dis marxiste, non marxien, car dans Marx, il y avait le sens de prolongement, mais dans tout ce prolongement occidental, l'homme est le conquistador qui est devenu le Gengis Khan de la banlieue solaire.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Edgar Morin est mon invité aujourd'hui en duplex depuis Montpellier. Edgar Morin, on vient d'entendre votre voix, vous aviez alors 52 ans, c'était en avril 1973, vous vous souvenez de ce moment ?
Oui, je me souviens très bien et j'assume et vis encore aujourd'hui cette idée-là.
En 73, vous prenez la parole, vous rencontrez aussi d'autres personnes qui vont vous aider à développer votre travail, votre parcours, et notamment cette personne que voici.
Il faut que les gens soient éduqués pour le gouvernement de la société. Il faut qu'ils soient éduqués dans la chose publique. Or, si vous prenez l'éducation actuelle, ça n'a strictement rien à voir avec ça, l'éducation. On leur apprend des choses spécialisées. Bien sûr, on leur apprend à lire et à écrire. Bon, très bien, il faut que tout le monde sache lire et écrire. D'ailleurs, chez les Athéniens, il n'y avait pas d'alphabet. Hein. Il n'y avait aucun alphabet. Tous, à peu près tous, savaient lire. C'est pour ça qu'on inscrivait les lois sur le marbre. Alors, c'est l'éducation, si on prend l'éducation au sens étroit, l'éducation des enfants, des jeunes, etc., devrait être quand même beaucoup plus axée qu'elle ne l'est maintenant vers les choses communes. Il faudrait comprendre les mécanismes véritables de l'économie, les mécanismes véritables de la société, de la politique, etc., etc.
Est-ce que vous reconnaissez cette voix, Edgar Morin ? C'est celle de Cornelius Castoriadis.
Ah !
Vous connaissiez bien, je crois.
Oh, bien sûr, c'est un compagnon de route avec Claude Lefort. Oui, ce sont mes deux compagnons philosophiques principaux, disons.
Comment a-t-il compté pour vous ? De quelle façon ?
Ah, il a compté pour moi dans la mesure où, premièrement, j'appréciais beaucoup la critique radicale qu'il faisait du communisme stalinien, beaucoup plus radicale que celle de Trotsky, et sans lui donner aucun privilège épistémologique. Et puis, dans un deuxième temps, nous avons cheminé ensemble vers ce qu'on peut appeler un métamarxisme, disons, en essayant de garder ce qui pour nous était fécond dans la pensée de Marx, et d'avoir une autre conception plus riche. Et au cours, disons, des années, surtout, on était ensemble des années 60... jusqu'à mes 60 et au-delà, mais surtout à cette époque, chacun a élaboré, moi j'ai élaboré un peu mes idées avec l'aide des connaissances biologiques, cybernétiques, etc., j'ai élaboré un peu ma vision un peu complexe, lui il a élaboré sa conception philosophique nouvelle sur la créativité, démocratie, d'ailleurs sur la créativité je suis totalement d'accord avec lui, donc si vous voulez, jusqu'à sa mort, nous avons été en compagnonnage fraternel, tout en ayant chacun sa propre personnalité. Et je dirais la même chose de Claude Lefort.
Dans votre parcours, on ne trouve pas que des philosophes comme compagnons de route, on ne trouve pas que des textes philosophiques, on trouve aussi quelques films et quelques musiques, quelques chansons. Si l'on s'approche de votre cœur, on peut par exemple entendre ceci.
Und der Haie Fisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und McKees, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind es Haifischflossen, rot, wenn dieser Blut vergießt. Mackie Messer trägt nen Handschuh, drauf man keine Untat liest. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand, und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Und Schmuel Meier bleibt verschwunden, und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hatte Mackie Messer, er immer nicht.
sommes-nous en train d'écouter, Edgar Morin ?
La chanson de Maquis, l'opéra de Katsou, oui, bien sûr.
Pourquoi cette chanson vous est-elle si chère ?
Mais je ne sais pas, est-ce que c'est parce que c'est son rythme lancinant ? Est-ce que c'est parce que ça restitue tout ce climat de dérision propre à Brecht qu'a rendu le film de Pabst ? Est-ce que ce, dans le fond de tout ça, il y a cette sorte de sentiment de la misère humaine ? J'ai senti tout ça dans l'opéra de Katsou. Vous savez, puisque c'est une œuvre qui m'a marqué quand j'avais entre 10 et 13 ans. J'étais très précoce à cause de la mort de ma mère. J'allais au cinéma, je lisais beaucoup. Mais c'est un film qui m'a marqué. Mais on est marqué sur le moment très profondément, sans savoir exactement pourquoi. Et c'est maintenant que je donne cette interprétation.
Vous aviez 10 ans en 1931 quand le film est sorti.
Voilà.
Alors, à côté de l'opéra de Katsou, on peut entendre d'autres choses, et notamment un autre film qui était à la base une pièce de théâtre. Il s'agit de Marius, le film de Marcel Pagnol qui sort également en 1931.
Marius, je ne connais pas encore assez bien les femmes. Mais moi, mon petit, je vais te les expliquer. Les femmes, c'est fier et c'est délicat. Et tu sais, on a beau ne rien leur dire, ça comprend tout, hein, ça devine tout, ça voit tout. Cette petite comprend très bien que tu n'es pas pressé. Alors, par fierté, je te dis, oh, nous avons bien le temps. Mais moi, je suis sûr qu'elle est languie. Et si tu lui disais que la messe est commandée pour demain matin, elle sera à l'église avant le retour.
Tu as peut-être raison.
Oh, pas peut-être, j'ai raison. Je te dis que j'ai raison.
C'est un film qui sort en 1931 également, donc vous l'avez peut-être vu sur les écrans directement, Edgar Morin.
Oui, et je crois que là aussi, l'émotion me venait, pas seulement de la présence et de ce que vivaient les héros, mais du fait que Marius est orphelin de mère, comme moi-même je l'étais. Et dans le fond, malgré l'amour de Fanny, n'est-ce pas, qui est très grand, et son amour pour elle, il a un amour plus immense encore pour la mère. M.E.R., mythologiquement, symbole de la mère. Et finalement, il partira vers la mère, en abandonnant Fanny. Mais donc, si vous voulez, c'est cette sorte de nostalgie qu'avait Marius au profond de lui-même que je me suis peut-être identifié à tout ça, et que l'œuvre, tout en me plaisant par ses aspects dramatiques et comiques et la partie de cartes, enfin toutes ces histoires-là, me touchait d'une façon beaucoup plus profonde. Parce que cette sorte de hantise de partir dans la mer de Marius était la chose dominante à ma vision. Voilà.
Est-ce que le fait d'être orphelin de mère a eu un impact sur votre travail ? Ou est-ce que c'était vraiment par rapport aux films, aux livres, aux musiques que vous écoutiez, que vous séparez complètement ces influences-là de votre travail ?
Ça a influencé ma conception de la vie et du monde, et donc finalement, mon travail. Moi, ce qui m'a bouleversé, c'était Crime et châtiment de Dostoïevski. Là aussi, sentiment de la misère humaine, pas seulement matérielle ou physique, mais psychique, morale. Et cette compassion, ce sens de la souffrance, du malheur, de la complexité humaine, parce que si un auteur complexe, c'est Dostoïevski, qui montre les multiplicités d'aspects d'un même être humain. Mais c'est surtout, je crois que cette chose que l'on trouve dans les grands Russes, dans Tolstoï, chez Tchekhov et surtout chez Dostoïevski, cette chose que n'a pas l'humanisme occidental, qui reste très rationnel. L'humanisme russe est profondément affectif, émotionnel. C'est le lien avec tout ce que souffre l'être humain, et Dieu sait si en Russie il y a eu de la souffrance.
Vous pensez que les auteurs russes parlent mieux, accordent une plus grande place à la souffrance humaine que les auteurs occidentaux, c'est ça ?
Oui, je pense que ces auteurs, je ne vois pas d'équivalent. Moi, j'aime beaucoup Balzac, Zola, Proust, etc. Mais je ne vois pas l'équivalent dans la littérature occidentale.
Alors, si on reste en 1931, encore une fois, voici un extrait du Chemin de la vie, le film soviétique de Nikolaï Hecq.
Яблочко хочется. Кто пойдет? Гришка, иди ты.
Ладно. Ну что ж, давай.
Бери, бери.
На, деньги.
А тебе что надо?
Почем яблочки-то?
Рубль. Ты куда? Держи!
Отдай яблоко! Отдай яблоко! Отдай яблоко!
Вот тебе!
Помоги! Je ne sais pas si vous comprenez le russe, Edgar Morin.
Ben, vous savez, alors là, pour combien comprendre, ça se passe dans les années 20, où il y a des années épouvantables dans la jeune Union soviétique, famine, beaucoup de voyous dans les rues de Moscou, et là-dessus, il y a un garçon avec sa maman, très bourgeoise, comme ça, très bien habillée, et il y a un petit voyou qui vient lui arracher le sac à main de la mère, qui tombe, qui se fracasse le crâne, qui meurt. Et Kolka, son fils, abandonné, va être intégré dans la bande des petits voyous. Et notamment, où il y a Mustapha, celui qui a arraché le sac de la mère, l'assassin inconscient de sa mère, dont il devient l'ami. Et tous ces jeunes sont raflés et envoyés dans un camp de travail. Et dans ce camp de travail ou de réhabilitation, ils construisent une ligne de chemin de fer qui relie le camp à la ville voisine. Et quand le rail est terminé et qu'il va y avoir l'inauguration, il y a toute la foule qui attend à la ville l'arrivée du train. Et de la gare de cette ville, Mustapha est chargé par le responsable du camp de vérifier avec sa résine si tout va bien sur les rails. Et à mi-chemin, il rencontre l'ancien chef de sa bande qui lui demande de rejoindre la bande. Et comme il refuse, l'ancien chef le tue. Et son cadavre reste sur les rails. Et quand la locomotive arrive à lui, il s'arrête. Et le mécanicien met le corps sur le tablier. Et la locomotive continue son chemin vers la ville. Quand au loin dans la ville on voit arriver la locomotive, la musique se met à jouer, triomphante, etc. Les gens applaudissent, les gens sont fous de joie. Et plus le train approche, plus à ce moment-là, on commence à voir ce cadavre sur le tablier. Et le silence se fait, la locomotive arrive en gare en laissant ses jets de fumée blanche et avec son tchou, tchou, tchou. Et ça se termine comme ça. C'est-à-dire que l'idée de cette fraternité entre celui qui a été involontairement l'assassin de sa mère et ce jeune Kolka, l'idée de leur rédemption, l'idée de... Je ne sais pas, je me sentis profondément concerné dans tout ça.
Concerné ?
Concerné, oui. Mais vous savez, peut-être parce que quand on est seul, un orphelin, on pense qu'on est coupable d'une certaine façon, peut-être de la mort de sa mère. Enfin, j'avais un sentiment de culpabilité. Et dans le fond, et aussi bien les romans russes dont je parle, ce sont des romans de rédemption. Mmh. C'est où on voit Raskolnikov de Crime et Châtiment, qui fait, grâce à une petite prostituée à l'âme pure, trouve le chemin de sa rédemption. Et je pense que. Et c'est une idée très profonde en moi et je l'ai expérimenté avec des gens qui étaient en prison, qui ont fait des choses affreuses et qui se sont transformés.
L'idée de la rédemption
humanisées. Oui, la rédemption.
Vous pensez qu'elle est possible?
Ah bien sûr, elle est possible. Elle n'est pas certaine, mais elle est possible.
Et vous l'avez vécu, vous?
Je l'ai vu.
Vous l'avez vu, pas vécu vous-même?
Je l'ai vu, non, parce que je n'ai pas fait de crime, mais je l'ai vu chez des gens qui étaient... emprisonnés, et j'ai vu comment ils se sont transformés.
Avant d'entrer dans votre atelier, Edgar Morin, d'en revenir à votre travail, à l'écriture de vos ouvrages, un dernier morceau de musique, il s'agit du début de la 9e symphonie de Beethoven.
Ah, oui.
Alors là, ce n'est pas l'idée de rédemption qu'on entend, mais celle d'un départ, d'un nouveau départ presque qu'on entend, non?
Oui. Il faut dire que ce début du premier mouvement me bouleverse toujours. Et la première fois que j'étais à Salle Gaveau, au concert L'Amoureux, directeur Eugène Bigot, quand ce premier mouvement, quand il y a après cet appel mystérieux qui sort des limbes et qui éclate cette sorte de d'élaboration gigantesque d'un univers avec violence, ça m'a... mes cheveux, j'en avais beaucoup, se sont dressés sur ma tête. J'ai eu un sentiment de l'extase. J'ai eu ce sentiment de la transe, oui, absolument. Et je pense que dans le fond, les grandes œuvres, surtout dans la musique, non seulement elles sont écrites en état de transe, mais elles donnent une véritable transe extatique.
Venons-en à votre écriture, Edgar Morin. Vous avez beaucoup écrit. Avez-vous écrit en état de transe, justement, en écoutant Beethoven, par exemple ?
Je le crois. Mais je crois qu'on ne peut créer que dans un état second. Et en tout cas, en ce qui concerne la méthode, pour moi, c'est incontestable parce que je m'étais retiré dans un lieu... au sommet d'une colline, dans un château à moitié ruiné, en Toscane maritime qui dominait la mer. J'étais seul, il y avait une gardienne qui me faisait la cuisine exquise populaire de là, et je travaillais sans arrêt.
Et pendant combien de temps j'avais...
Oh, j'ai travaillé pendant plusieurs mois sans arrêt, et j'ai continué après dans d'autres lieux. Et d'ailleurs, au début, je ne pouvais pas travailler sans fumer. Comme si chaque pipée, chaque aspiration, avec un petit feu, me donnait un souffle nouveau. Et alors donc, j'ai arrêté la cigarette, parce que je me disais, je ne pourrais pas... On arrête de fumer quand il y a un péril de mort. Et là, la mort, c'était de l'enfant que je voulais faire naître. Et donc, j'ai arrêté. Un ami m'a passé de la cocaïne. Ça m'a complètement exalté. J'ai écrit quelque chose que j'ai cru génial. Et puis, j'ai vu que c'était lamentable. J'ai arrêté la cocaïne. J'ai tout arrêté. Et j'ai finalement trouvé de l'intérieur. Il faut dire que j'étais aussi dans un état très, très amoureux. J'étais une femme qui m'aimait, qui m'aidait. Bref, il y a cet état second. Mais je pense que écrire, c'est toujours un état second. D'ailleurs, Balzac se faisait aider par du café, Malraux par de la cocaïne. Enfin bref, où vient, ça vient tout seul.
Et vous continuez à écrire aujourd'hui. Est-ce parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore dites ou parce que vous voulez dire différemment, peut-être plus précisément, une même idée qui vous accompagne depuis le début ?
Ben, écoutez, il y a des choses que je dis un peu mieux. Un de mes derniers livres, disons paraphilosophique, qui s'appelle « Connaissance, ignorance, mystère », C'est un peu ça ma réflexion sur ce que l'on peut connaître, sur l'inconnu, sur le mystère. C'est un peu, c'est toujours le problème de la connaissance dont je oui. vous parlais. Alors, bon, mais maintenant, si vous voulez, ce que j'ai écrit, enfin, je vais corriger maintenant, j'ai écrit des souvenirs. Ça, les souvenirs qui sont... J'ai beaucoup écrit, disons, d'une façon autobiographique, intellectuellement, sur mes idées. Là, c'est beaucoup plus émotionnellement sur le vécu, l'affectivité, les rencontres, les choses émouvantes. Alors, ça, oui, c'est un peu différent de ce que j'ai écrit, mais qui me donne un plaisir parce que je ressuscite, à mon âge, tellement d'amis morts. Je les ressuscite et je les fais revivre et je suis content de vivre un peu avec eux. Ça me donne là aussi un plaisir empreint de mélancolie et d'un peu de douleur, mais tout ça est lié.
Vous avez découvert récemment, il y a quelques années, un autre mode d'écriture et de communication ou d'expression de certaines pensées, pas forcément des concepts philosophiques, mais des pensées. C'est Twitter, Edgar Morin. Vous avez un compte Twitter ouvert en mars 2013 et vous avez plus de 118 000 abonnés et vous tweetez quasiment tous les jours.
Ben, vous savez, les tweets, ça m'a été conseillé par un ami. Et donc, j'ai pris cette formule qui limite le nombre de signes d'expression, un peu comme un défi, disons, et pour faire, mais non pas des maximes à la Rochefoucauld, mais parfois des aphorismes, des pensées qui me viennent, ou parfois des réflexions sur les événements, ou parfois je retweete des tweets que je trouve très, très jolis ou intéressants. Mais enfin, dans le fond, c'est une façon de m'exprimer. Et en effet, par exemple, un de mes derniers tweets, c'est « Il n'est pas sage d'être trop sage ». C'est le problème même du mot « philosophie » qui aime la sagesse. Je dis voilà. Donc, vous voyez, je...
Et vous êtes extrêmement suivi sur Twitter. Hein. Chacun de vos tweets est retweeté des centaines de fois, aimé plusieurs fois. Comment vous expliquez un tel succès ? De manière générale, vos ouvrages sont traduits dans le monde entier, vous ne cessez de proposer des conférences, de vous adresser à un public très nombreux et très demandeur. Comment vous expliquez cette rencontre entre votre travail et un public ?
Et vous savez, en réalité, mes livres ne sont pas tellement vendus en France. Il y en a que je estime très importants, qui ont très peu de ventes, comme Terre Patrie ou Science avec conscience, qui sont des livres un peu philosophiques, surtout le dernier. Non, c'est vrai, j'ai beaucoup de traductions. J'ai pas mal de doctorats honoris causa.
Plus de 30.
Mais j'ai pas un grand public, ça, non. Il y a les tweets, si vous voulez, mais des tweets, il y a beaucoup de curieux, et aussi quelques gens qui s'intéressent à moi, ma façon de penser. Voilà.
Est-ce que vous considérez que votre travail aujourd'hui, votre travail philosophique, a un rôle politique dans la cité?
Je pense qu'il devrait avoir un rôle politique, parce que j'ai écrit un livre inspiré de tout le travail de la méthode sur le plan des politiques, qui s'appelle La Voix. Et là, j'ai exprimé un certain nombre de propositions, d'idées, que j'estime absolument nécessaires. Mais ce livre a été pas mal lu, d'ailleurs, c'est un de mes livres qui s'est plus vu, mais jamais par des politiques, par des gens, par des lecteurs, par des gens divers. Donc, si vous voulez, je pense que ce que je fais est tellement loin des préoccupations des politiques actuelles qui sont dues au jour le jour, où la politique réduite à l'économie, ou qui n'ont pas le temps de lire, etc. Donc, si vous voulez, malheureusement, je fais un travail qui a un sens politique, mais sans aucun retentissement.
Vous souhaiteriez que votre travail soit davantage lu par les politiques eux-mêmes ?
Pas par les politiques officielles, mais je souhaiterais qu'il soit pris en compte par des gens qui eux-mêmes souhaiteraient une autre voie politique. Par exemple, il y a des choses qui correspondent avec Nicolas Hulot, et d'autres choses qui correspondent avec d'autres, avec ce que disaient mes amis Foro Castoriadis. Mais moi, actuellement, je pense qu'il y a un travail de recommencement à zéro de refaire une pensée politique. C'est ce qui s'est passé au XIXe siècle pour le socialisme qui s'est élaboré à partir de Fourier, à partir de Proudhon, à partir de Marx, des penseurs divers qui se sont complémentaires et concurrents, à partir des libertaires, des socialistes. Et tout ça a un magma qui a donné lieu à un moment donné une pensée qui est devenue dominante parce qu'elle était très cohérente. C'était une conception du monde, une conception de l'homme, une conception de l'histoire. C'était ça la pensée de Marx. Et donc, c'est cette cohérence qui a fait qu'elle a pu durer assez longtemps. Et aujourd'hui, elle a des aspects entièrement vieillis. La conception matérialiste du monde n'a pas de sens. Il y a beaucoup de choses qui sont trop unilatérales. Prééminence de l'infrastructure sur la superstructure, c'est pas ça. Bon, à mon avis, il faut repenser à partir de zéro, à partir de toutes nos nouvelles connaissances sur l'homme, sur l'histoire, sur la vie, sur le monde, et recommencer à proposer une vision et une pensée d'action. C'est ce que j'essaye de faire. Mais là, j'ai prêché dans le désert. Je continue à prêcher dans le désert, ce qui ne me décourage pas d'ailleurs.
Mais comment vous l'expliquez ? Parce que par ailleurs, vous êtes extrêmement lu quand même. Donc vous pensez que ce ne sont pas les bonnes personnes qui vous lisent ou qu'il manque des personnes pour mettre en œuvre ce que vous écrivez par ailleurs ? Mais ou est-ce que vous-même, vous devriez aller travailler pour un gouvernement en fait ?
Non, c'est parce que ce que j'ai écrit et semé, ça a touché beaucoup de gens très dispersés, mais ça n'a pas touché des gens qui ont des responsabilités fondamentales dans les systèmes. Et je pense que là aussi, il faudrait créer une nouvelle forme d'action politique qui ne soit pas un parti, mais qui ne soit pas seulement le côté protoplasmique des Gilets jaunes. Enfin, il y a toute une repensée à faire et dans laquelle j'essaie de contribuer. Mais nous sommes un peu comme dans la même situation qu'au XIXe siècle, où s'élaborait une pensée nouvelle qui était à la fois le socialisme, le libertarisme, et puis finalement le communisme. Et là, aujourd'hui, il s'agit pas seulement de relier tout ça, mais à partir d'une nouvelle vision du monde, de l'homme, de l'histoire, de pouvoir faire des propositions. Donc, c'est une reconstruction difficile. Moi, j'apporte ce que je peux. Mais bon, vous savez, parfois, il faut attendre très longtemps avant qu'on utilise. Déjà, regardez le temps qu'il a fallu pour que le message de Jésus, il a fallu quelques siècles qu'il devienne un message important dans l'Empire romain. Mmh. Et c'est comme ça.
Vous êtes le Jésus de la philosophie.
Non.
Espérons-le. Merci en tout cas, Edgar Morin. Merci beaucoup.
Non. Mais non, je ne suis pas du tout un Jésus, je ne suis pas un Messie, je ne suis pas un prophète. Je suis peut-être l'annonciateur, un Saint-Jean-Baptiste de quelque chose qui n'est pas encore venu.
Eh bien, chaque auditeur vous entend en tout cas aujourd'hui. Merci beaucoup Edgar Morin d'être venu nous parler ce matin.
Merci.
Je rappelle que vous étiez en duplex depuis Montpellier. On s'écoute avec une chanson qui vous est chère, une chanson, un texte de Rudebeuf, mise en chanson par Léo Ferré, pauvre Rudebeuf. On l'écoute ?
Très beau.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, les emporta.
C'était en 1955 à Bobino. Est-ce que vous étiez présent, Edgar Morin, à ce concert ?
Écoutez, ça m'émeut parce que, non seulement parce que c'est très beau, mais en plus, c'est ce que je me dis en pensant à mes amis. Et donc, je me sens très concerné par cette magnifique chanson de paroles et de musique.
Qui de partout me fait la guerre au temps d'hiver. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mis à honte, en quelle manière, que mes amis devenus, que j'avais de si prétenus, et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Le mal ne sait pas seul venir, tout ce qui m'était à venir m'est avenu. Pauvre sens et pauvre mémoire, m'a Dieu donné le roi de gloire, et pauvre rente. Et droite au cul qu'en bise vente, le vent me vient, le vent m'évente, l'amour est mort.
Quelle beauté cette chanson, Edgar Morin.
Hein, elle me fait un effet terrible. Mais enfin, que j'adore aussi, mes sons, c'est un peu ce que je ressens sans arrêt. Voilà.
Bon, j'espère que ça ne vous aura pas trop attristé pour terminer cette émission.
Non, mais au contraire, c'est une bonne émotion, vous savez. Quand toute chose triste, transcendé par l'esthétique, reste triste tout en étant heureuse.
C'est vrai.
Ça qui est extraordinaire. Ça nous donne une joie dans le chagrin. Voilà.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci à vous.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est grand temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Le blanc est-il une couleur? Mais alors quelle couleur, à quoi et à qui renvoie-t-il? Que recouvre-t-il? Depuis les années 90, ce sont les questions que posent les Whiteness Studies. Ces études issues des sciences sociales et des sciences humaines qui ont ainsi forgé le concept de blanchité, que l'on peut aussi trouver sous le nom de blanchitude. Mais on pourrait remonter à 1952 et à la parution du grand livre de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc.
Je me faisais le poète du monde. Le blanc avait découvert une poésie qui n'avait rien de poétique. L'âme du blanc était corrompue, et comme me le disait un ami qui enseigna aux États-Unis, les nègres en face des blancs constituent en quelque sorte l'assurance sur l'humanité. Quand les blancs se sentent par trop mécanisés, ils se tournent vers les hommes de couleur et leur demandent un peu de nourriture humaine. Enfin, j'étais reconnu. Je n'étais plus un néant. Je devais vite déchanter. Le blanc, un instant interloqué, m'exposa que génétiquement je représentais un stade.
Bien avant l'émergence d'études sur la blanchité, Frantz Fanon, en creux de son analyse sur les conséquences politiques, linguistiques et psychologiques du colonialisme, a produit une réflexion sur ce concept qui n'existait pas en tant que tel. Alors que son livre s'ouvre sur une citation du fondateur du courant littéraire et politique de la négritude, Aimé Césaire, il met en face à face ces deux figures créées par la colonisation, le noir et le blanc. Qu'il s'agisse de l'un et l'autre, le constat est le même, il ne s'agit pas de couleur, encore moins de biologie bien sûr, mais de construction historique et sociale. Comment le blanc, pour asseoir sa domination et se forger une supériorité, a-t-il construit l'homme noir? Et comment celui-ci, en miroir, a-t-il intériorisé les caractéristiques qu'on lui a attribuées, qu'on lui a imposées de l'extérieur? C'est le propos de Peau noire, masque blanc. Et l'on voit bien, à travers ce texte de Fanon, que l'un ne s'est pas construit sans l'autre, que pour penser ce qui serait une négritude assumée pour Aimé Césaire ou subie, comme l'expose Frantz Fanon, il faut, en miroir, penser une blanchité. Mais comment penser ce blanc qui s'est toujours imposé comme donné, comme évident, comme inquestionnable.
Ce qui a attiré mon attention, c'est de savoir si les connotations culturelles du jazz pouvaient provoquer un tel phénomène de possession. Je m'intéressais depuis longtemps à la façon dont les Noirs déclenchent des moments cruciaux, des révélations dans une littérature qu'ils n'écrivent pas. la catalyse de Louis Armstrong m'a encouragé à réfléchir aux conséquences du jazz, à son impact viscéral, émotionnel et intellectuel sur l'auditeur. J'inclus ici ces pensées que j'ai eues en lisant ce livre parce qu'elles identifient les étapes de mon intérêt pour l'usage si répandu des images noires et des noirs dans la littérature et l'effet qu'elles ont sur l'imagination du lecteur.
Parmi les premiers à avoir distinctement questionné le blanc, il y a l'écrivaine Toni Morrison. Romancière américaine, critique et professeure, éditrice et prix Nobel de littérature en 1993, elle est l'auteure de cet essai « Playing in the Dark » dont on vient d'entendre un extrait. Dans ce texte issu au départ de trois conférences, elle interroge donc ce qui ne l'avait pas été avant en tant que telle, la blanchité. Que recouvre-t-elle? En quoi est-elle une construction sociale, politique, historique, mais aussi imaginaire? Cette question de la whiteness, elle la pose cependant à partir de la même construction qu'il y a eu en miroir de la darkness. Ce sont, comme elle le dit, les connotations culturelles du jazz. Louis Armstrong, cet usage des images noires et leur effet sur l'imagination du lecteur. En cela, Toni Morrison a fourni la méthode pour découvrir ce que l'on masquait du nom d'une couleur. Elle est revenue en fait à la fabrique d'un concept, fabrique qui trouve en fait sa genèse dans des images, qu'il s'agisse de clichés ou de stéréotypes.
Avant les années 40, il y avait beaucoup de races blanches. Quelques-uns étaient supérieurs et quelques autres étaient inférieurs. Mais tous étaient des blancs. Et les hommes adultes peuvent voter. Ça, c'est central, parce que le pouvoir de voter, ça change tout. Ça change tout pour avoir une présence dans la politique et aussi pour les jobs, pour le boulot.
À la fabrique du concept de blanchité d'un point de vue des images par Toni Morrison, il faut ajouter la voix d'une autre pionnière du sujet, Nell Irvin Painter. C'est à l'historienne américaine que l'on doit, paru en 2009 aux États-Unis, mais aujourd'hui traduit en français aux éditions Max Milo, une histoire des blancs. Ici, on découvre ce que cache le blanc, dans sa construction historique bien sûr, mais aussi politique et sociale. Ce sont par exemple tous ces essais sur le génie des nations, sur l'anatomie de tel ou tel peuple, sur les mœurs d'un autre, qui ont contribué à forger le concept de blanchité. Et parmi leurs auteurs, on compte par exemple Tocqueville ou Emerson. Jusqu'ici, on ne les voyait pas comme ça, on ne les avait pas lus ainsi. C'est que le blanc, la blanchité, véritable masque, n'avait pas encore montré son vrai visage. Et pour aller plus loin, vous pouvez lire « Histoire des blancs » de Nell Irvin Painter qu'on trouve aux éditions Max Milo dans la collection Voix Libre.
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Mathieu Tarpin qui a préparé cette émission avec Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette émission, Anthony Thomasson qui est à la prise de son aujourd'hui. Merci aussi à l'équipe technique de Montpellier qui a permis d'assurer ce duplex avec Edgar Morin. Si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook où l'équipe des Chemins de la Philosophie attend vos messages et sera ravie de communiquer avec vous. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série d'émissions. Lundi, on vous proposera de redécouvrir une série sur Hegel qui avait été diffusée pour la première fois en mai 2018. On parlera de la mort de l'art, de la dialectique du maître et de l'esclave. On se demandera si l'histoire a encore un sens et si le droit, c'est la vie. Rendez-vous lundi à 10h, donc nous, on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.